Bonsoir, province du Nord Kivu. Des forces sud-soudanaises ont rejoint dimanche la force de la communauté est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo pour faire observer un cessez-le-feu dans cette province de la RDC où les rebelles du M23 combattent l'armée nationale. Le commandant de la force de l'EAC a précisé à Goma que le contingent militaire du Sud-Soudan sera déployé dans la localité de Rumangabo. Ce commandement précise que l'arrivée du contingent sud-soudanais marque la phase finale du déploiement des troupes de l'EAC dans l'est de la RDC. Ce contingent estimé à 750 soldats s'ajoute aux Kenyans, Burundais et Ougandais qui se sont déjà déployés dans cette partie des zones occupées par le M23 accusé d'être soutenu par le Rwanda. D'après plusieurs sources, le retrait des rebelles du M23 reste toujours controversé. Certains témoins estiment que les rebelles font semblant de quitter certaines positions tout en apportant des renforts dans les territoires du Massissi et de Rutshuru. Quelle lecture faire des mouvements du M23 ces jours-ci en RDC et l'arrivée du contingent sud-soudanais en RDC? Et pour faire cet objectif, nous serons avec Bertin Mubondi, député national et cadre de l'UNC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Bertin Mubondi, bonsoir.
Bonsoir.
Mais également Jean-Claude Mbabazé, bonsoir.
Bonsoir aux auteurs de Radio Capi, bonsoir aux co-débatteurs.
Jean-Claude Mbabazé, vous êtes président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Et enfin, Timothée Chaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Timothée Chaombo Soucha, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nord Kivu, en République démocratique du Congo, des forces sud-soudanaises ont rejoint dimanche la force de la communauté est-africaine déployée dans l'est de la RDC pour faire observer un cessez-le-feu dans cette province où les rebelles du M23 combattent l'armée nationale. Le commandant de la force de l'EAC a précisé à Goma que ce contingent militaire du Sud-Soudan sera déployé dans la localité de Rumangabo. Ce commandement précise que l'arrivée du contingent sud-soudanais marque la phase finale du déploiement des troupes de l'EAC dans l'est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Bernardin Nyangui.
Ce premier détachement d'avance des forces de défense du peuple du Sud-Soudan SPLA, constitué de 50 hommes, pour la plupart des officiers, est arrivé hier dimanche et ce lundi, d'autres éléments de troupes sont arrivés à Goma. Ils seront basés à Kibati, dans le territoire de Nyiragongo, avant leur déploiement sur l'axe Kibumba-Rumangabo, où ils vont cohabiter avec le contingent kenyan déjà sur place. Ces dispositifs sont conformes aux recommandations de la réunion des chefs de défense des pays membres de l'EAC du 9 février 2023 à Nairobi. L'arrivée de ces Sud-Soudanais, selon les sources du commandement de la force régionale, marque la phase finale du déploiement des troupes de l'EAC dans l'est de la RDC. Ils vont renforcer les troupes kenyanes, burundaises et ougandaises déjà en province. Toutefois, le retrait des rebelles du M23 des zones de leur déploiement reste controversé. Selon plusieurs sources, les Kenyans sont déployés à Rumangabo alors que les rebelles y sont toujours. Les Ougandais, dont les autorités avaient déjà déclaré ne pas vouloir cohabiter avec les rebelles, continuent de camper dans le Kibaya de Bunagana côté Ougandais en attendant le retrait effectif des rebelles sur l'axe Bunagana-Rutshuru-Kiwanja. Pendant ce temps, les Burundais se déploient sur l'axe Sak-Kilolire-Kichanga-Mweso alors que les rebelles sont toujours sur place.
Bertin Mubondi, député national et cadre de l'UNC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. En qualité d'élu, vous êtes en quelque sorte le contrôleur du gouvernement de la République. Et depuis quelques jours, un vocabulaire revient de manière récurrente dans l'actualité du front. Est-ce que on peut aujourd'hui sans sourciller et dire que le processus de retrait du M23 est en cours et il se passe comme il devrait se passer?
Bon, merci beaucoup pour la question que vous m'aviez posée. Et je pense que la question elle est tellement sensible que vous comprendrez que par rapport à la fonction que j'ai, il y a des choses qu'on ne pourra pas dire ici. Mais la meilleure chose à dire, c'est qu'il y a un processus qui est en cours. Est-ce que ça se passe comme ça doit se passer? Personnellement, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas parce que vous êtes quand même informé par rapport au non-respect de tout ce que nous disons ensemble avec les différents pays de la région, hein, par rapport à qui doit faire quoi et à quel moment exactement. Mais je voudrais quand même signifier ici, et c'est très important, parce que j'ai vu que vous aviez mis un accent particulier sur les différents déploiements des différentes forces
de l'EAC.
Oui, de l'EAC, et c'est important quand même que je puisse le souligner. Nous sommes au début d'une nouvelle session parlementaire. Et cette session parlementaire, et nous avons décidé d'avoir un accent particulier sur deux éléments importants. C'est d'abord la sécurité, mais aussi les élections. Et ici, c'est important de le souligner. Nous avons un nouveau ministre de la Défense, en la personne de Jean-Pierre Bemba. Nous avons un nouveau ministre au niveau du ministère de l'Intérieur. Et il n'y a pas très longtemps, ça vous avez suivi aussi, le commandement des opérations au niveau du Nord Kivu est revenu entre les mains du gouverneur militaire, conformément évidemment à l'ordonnance présidentielle qui avait décrété l'instauration de l'état de siège dans cette partie de la République.
Mais Bertrand Mbonzi, nous aurions souhaité vraiment avoir le gouvernement pour pouvoir nous donner les informations les plus précises sur ces questions, mais étant donné que nous avons eu du mal à avoir pour l'émission d'aujourd'hui les autorités gouvernementales qu'on aurait souhaité, comme je le disais à l'introduction, vous êtes quand même le contrôleur du gouvernement en tant que député national, en tant qu'assemblée nationale ou en tant que parlement. Les populations s'inquiétaient déjà de l'arrivée des forces étrangères sur le sol congolais. Et aujourd'hui que de nombreuses forces sont là, y compris celles de l'EAC, est-ce que avec le processus que vous n'avez pas voulu nommer, hein, mais nous on entend parler du retrait de M23, discuté ou pas, est-ce que en ce moment-ci, la RDC, l'État congolais, a le contrôle de son territoire encore entre ses mains, ou comme s'inquiète la population, le territoire lui échappe?
Non, l'État congolais a le contrôle, cher ami, il faut faire attention, l'État congolais a le contrôle total. Et nous sommes dans un processus qui est en train de suivre son cours normal. Est-ce que ça se passe comme nous le souhaitons? Ça, c'est une autre question, à laquelle d'ailleurs, nous sommes déjà en train de réfléchir au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la Commission de défense et sécurité. Une première réunion venait d'être tenue autour du Premier ministre, Commission de défense et sécurité et gouvernement, pour que nous puissions faire le point. Et je peux vous rassurer qu'il y a des questions qui sont posées. L'inquiétude de la population reste tout à fait valable. Toutes ces forces qui aujourd'hui se retrouvent chez nous, c'est tout à fait normal que ça puisse, à un certain moment, nous amener à nous poser des questions. Mais ici, et c'est important que je le dise, lorsque nous avions décidé que le groupe de l'EAC puisse venir chez nous afin que nous puissions ensemble mettre fin à cette guerre nous imposée par le Rwanda, il y avait un objectif. L'objectif, c'était d'abord, premièrement, de demander aux troupes d'M23 de déposer les armes, et si cela n'était pas fait, d'imposer la paix. Cela veut dire d'imposer le M23 à le faire. Alors, aujourd'hui, ce que nous observons, il y a effectivement beaucoup de questions que nous pouvons nous poser autour de ça, et je crois qu'il y a un endroit approprié pour ça, et nous, vous pouvez vous rassurer que nous allons faire le travail de manière à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous pouvons attendre et quel est le résultat escompté pour que nous puissions rassurer notre population par rapport à l'objectif qui est poursuivi par le président de la République, celui de restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC.
Député national et cadre de l'UNC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Bertin Mbonzi, comme vous l'avez dit, nous savons parfaitement que certaines choses ne seront pas dites ici, Mais est-ce que les forces armées de la RDC sont interdites de fouler le pied dans l'espace que libère M23 de manière régulière et qui passe sous contrôle des forces de l'EAC?
Bon, écoutez, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont qui ont été décidées au niveau de la région et chacun sait au moins, en tout cas de manière assez claire, quel rôle il joue dans ce processus. Et donc, à ce stade ici, nos forces armées sont en train de jouer leur rôle, les forces de l'EAC sont en train de faire leur travail, et c'est une matière purement sécuritaire. Il faudrait tout simplement que nous puissions nous rassurer que tout le monde respecte les limites de prérogatives qui lui ont été confiées par les différents chefs d'État, mais aussi les différents chefs de défense au niveau de la région. Et donc nous, à notre niveau en tant qu'Assemblée nationale, nous avons un œil là-dessus, nous allons vraiment bousculer le gouvernement pour que nous puissions nous rassurer qu'il n'y ait pas de dérapage et que la population puisse réellement recouvrer la paix, parce que c'est ça le seul objectif qui est visé.
Alors, Bertrand Mbonzi, le M23 aurait dû quitter le territoire congolais il y a quelques jours déjà, selon le plan qui avait été indiqué. C'est pas encore le cas. Est-ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui à quel moment exactement le M23 ne sera plus en République démocratique du Congo dans le cadre du processus actuellement déclenché?
Écoutez, l'effectivité du déploiement tel qu'est dit par le commandant au niveau de l'EAC, c'est que aujourd'hui, nous observons cette effectivité et c'est dans le cadre du processus, ok. Et donc, il faut que ça soit très clair, avec comme objectif, comme je l'ai dit, de nous rassurer que le M23 se retire de toutes les zones qu'il contrôlait jadis. Donc, aujourd'hui, la question de savoir à quel moment exactement ils vont quitter le sol, mais je l'ai toujours dit, je crois que je l'avais encore dit dans votre émission, nous devons, nous, Congolais, investir dans notre armée. Nous n'avons pas une autre armée. Et en tant que pays souverain, nous ne pouvons pas sous-traiter notre sécurité. Et donc nous ne pouvons pas croire un seul instant que ce sont les autres armées d'autres pays qui viendront nous aider à restaurer la paix dans notre pays. Et donc il y a un travail qui est en train d'être fait à notre niveau et pour que nous puissions nous rassurer ensemble avec le gouvernement et le commandant suprême de la montée en puissance de notre armée et lui permettre bien évidemment d'être capable de contenir cette guerre et de rassurer la population et mais aussi la sécuriser le peuple mais aussi nos frontières. Et donc, à ce stade, tout ce qui va être fait à notre niveau en tant qu'Assemblée nationale, c'est de se rassurer que notre armée pourra être capable demain de nous garantir la paix et la sécurité dans cette partie de la République. Mais sinon, pour le reste, c'est d'avoir un œil, d'être sûr qu'il n'y aura pas de dérapage et très rapidement nous rassurer que toutes ces forces vont quitter la République démocratique du Congo.
Merci Bertrand Mbonzi, nous restons avec vous dans ce débat. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu, sans complaisance et en toute responsabilité, qu'avez-vous observé sur le terrain? Est-ce que on peut utiliser le terme retrait? Est-ce que ce retrait est important du M23? Est-ce que, selon vous, les différents contingents venus jouer un rôle dans le cadre des forces régionales de l'EAC sont en train d'agir comme ils se devaient?
Oui, merci beaucoup Guy Maté. Je voudrais toujours, comme d'habitude, en tout cas, présenter encore une fois ma compassion auprès de toutes ces populations qui sont en tout cas sous la barbarie du M23 et malheureusement en tout cas sous les silences, que ce soit en tout cas des autorités à tous les niveaux. Mais sinon, pour revenir à votre question, donc, il faut vous dire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, franchement, ça fait vraiment très honte et ça fait vraiment même une déception de la part de la population. Surtout que on ne continue, en tout cas, surtout au niveau du gouvernement, on continue à faire foi à des gens qui n'ont jamais respecté leurs engagements. Je voudrais rappeler que...
De qui vous voulez parler, Jean-Claude Mbabazé, qui ne respecte pas leurs engagements?
ce sont les autorités, les présidents de l'EAC, des différents pays de l'EAC. Ils s'étaient engagés, en tout cas sur, par rapport au sommet de Luanda, qu'ils allaient quitter. Est-ce qu'ils ont déjà quitté? Quand ils n'ont pas quitté, qu'est-ce qui a été pris comme décision?
Nous, la presse, on entend on remonte à notre niveau que le retrait est en train de se faire, que le M23 a déjà libéré un certain nombre de localités. Aujourd'hui, entre les mains de certains contingents de la force régionale, que le processus est en train de suivre un cours, peut-être pas aussi rapide que certains l'auraient souhaité. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il y a des retraits du M23 et que l'EAC est en train progressivement de récupérer les localités libérées?
Monsieur Guibaté, il faut d'abord revenir un peu
Donnez ma diva pour ce soir.
Ah oui, donnez ma diva. Il faut revenir un peu à l'initial. Qu'est-ce qui était prévu? Qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce que nous observons sur le terrain? Il était prévu que, au plus tard le 30, tous les membres de M23 devaient quitter et se retrouver à Sabinho. Est-ce qu'aujourd'hui le M23 est à Sabinho? La réponse c'est non. Est-ce que il faut aller aussi penser que c'était prévu que si les 30 arrivaient et que ceux-là n'ont pas quitté, ils devaient être traqués. Est-ce qu'aujourd'hui le M23 est traqué? La réponse c'est non.
Ils n'ont peut-être pas respecté la date du 30, mais est-ce qu'ils sont quand même en train de se bouger dans le sens de se retirer en ce moment-ci ou pas?
C'est pas le premier retrait qu'on est en train de voir, monsieur Guimaté. Il est vrai qu'ils ont quitté certaines localités, notamment Bambou, notamment Kishiche, mais en quittant, c'est pas que l'EAC est arrivé à Kishiche à Bambou, il n'y a pas l'EAC à Kishiche à Bambou. Ça veut dire qu'ils ont fait seulement semblant pour dire que nous, ils veulent quitter, et ils sont rentrés vers Tongo, c'est pas très loin. Ils ont quitté Kiseguro, ils sont aujourd'hui à Kiwanja, c'est à Nyongera, c'est grand corps dans la grande cité. Donc, ils sont à Bunagana, c'est vrai que les troupes ougandaises sont arrivées à Bunagana hier soir, mais l'M23 est encore à côté. Et donc, pour nous pensons que l'M23 n'a pas quitté les hommes comme il était prévu, mais nous pensons que il est plutôt en train de vouloir co-gérer ces zones avec les troupes de l'EAC. Rappelez-vous, surtout que pour nous, en tout cas au niveau de la population, nous continuons à fustiger, par exemple, la présence de certains États dans l'EAC. C'est notamment les Ougandais. Comment le gouvernement peut faire foi aux Ougandais alors qu'on sait très bien que si le M23 a reçu encore des armes, si le M23 a eu encore à se renforcer, c'était en Ouganda qu'ils ont reçu des armes. C'est de l'Ouganda qu'ils ont attaqué notre pays. Et aujourd'hui, le gouvernement veut vraiment faire foi aux Ougandais qu'ils vont venir traquer des gens qu'ils ont eux-mêmes armés, des gens qui sont sur le terrain aux côtés des M23. Franchement, ce serait penser que le sorcier de son enfant sera en tout cas le maître de son enfant.
Mais Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, on comprend peut-être votre insatisfaction et votre impatience. Lorsqu'on voit que le processus de déploiement ou de rassemblement des forces de l'EAC, selon le commandement de l'EAC, vient d'arriver à son terme avec l'arrivée des Sud-Soudanais. Avant les Sud-Soudanais, il y avait les Ougandais, les Burundais et les Kenyans. Donc les Sud-Soudanais viennent de clore le processus de regroupement de toutes ces forces en République démocratique du Congo. Quand vous dites que les États de l'EAC ne respectent pas leurs engagements, est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère parce que, au moins sur ce plan, les pays et les forces attendues sont déjà en RDC?
Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que quand il y a un calendrier, il y a quand même des étapes qu'on doit respecter. Est-ce que les étapes ont été respectées par rapport au déploiement des protégés et par rapport même au retrait? Quand vous suivez les discours de Willy Ngoma, les porte-parole militaires du M23, il vous dit quoi? Ils ne vont pas quitter, ils vont cohabiter avec le M23. Et qu'est-ce que nous voyons à côté des troupes de l'EAC? Et à côté, il y a le troupe de Diane 23. Donc, on s'est dit, est-ce que la mission, c'est de venir cohabiter avec les M23, ou la mission, c'était de venir récupérer des zones qui seront, abandonnées par les M23. C'est ça, le problème. Et que le gouvernement, là, se
discuter, il est en train d'observer comment on est en train de jouer avec sa population sur le terrain. Les gens, ils viennent, ils font des semblants, des palades sur la rue, et le soir, ils se retrouvent ensemble, comme à Bunagana, par exemple, c'est là qu'ils mettaient bien Bunagana. Les troupes ougandaises, ils sont dans Bunagana centre, et juste sur la colline, et à 200 mètres, c'est la position du M23. Arrivé à Rumangabo, les troupes kenyanes sont là-bas, et à côté, il y a des troupes du M23. Et est-ce qu'on veut nous dire vraiment qu'ils sont en train de se retirer? Surtout que, comme venait de dire même l'honorable, que je respecte beaucoup, on ne peut pas sous-traiter la sécurité des populations. Willy Ngoma a été clair, il dit que non, là où ils étaient, s'ils se retirent, on ne peut pas avoir les FADC, on ne peut pas avoir la police. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir pour sécuriser la population qui pense qu'il peut retourner chez elle? Et que donc, nous, on ne peut pas accepter ça. Ce serait une façon de créer une zone tampon pour permettre maintenant à ces gens de faire ce qu'ils veulent. Et nous, comme population, nous continuons à faire foi que les gens qui doivent nous sécuriser, ce sont nos militaires FADC, ce sont nos militaires ce ne sont pas des Ougandais qui ont faciliter la prise, qui sont dans l'M23, qu'on nous amène encore pour nous sécuriser. Ça, c'est vraiment le gouvernement qui a accepté ça. C'est vraiment cracher sur nos morts, des gens qui nous ont tués, et on vient encore maintenant nous hypothéquer pour que ces gens viennent nous sécuriser. C'est vraiment une moquerie contre notre population, et je crois que le gouvernement devait quand même être responsable par rapport à ce qu'il fait comme décision, tout en sachant que le peuple est le souverain primaire, il a le droit d'être sécurisé et protégé dans son propre pays par les institutions du pays.
Merci Jean-Claude Mbabazé, le débat continue avec vous aussi. Timothée Chaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Certains de vos collègues enseignants à l'université, professeurs d'université, qui sont passés dans notre émission sur ces mêmes questions, se sont montrés très pessimistes. Hein. Beaucoup ne se sont pas cachés. Ils ont estimé que le M23 ne sortira, ne quittera jamais la RDC de bonne foi ou à la demande des organisations comme c'est fait actuellement. Quelle est votre position sur la question?
Mais ma position reste constante parce que même s'il y a plusieurs théories sur la violence, la guerre, l'utilisation des armes, le principe reste le même. C'est-à-dire, lorsqu'on a un mouvement terroriste, on a une théorie qu'on applique. Lorsqu'on a une rébellion contre un État, on a une théorie qu'on applique. Lorsqu'on a une agression, on a une théorie qu'on applique. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire il revient à cet État-là, à l'État-major de ce pays-là, de s'assumer dans l'un ou l'autre cas. C'est-à-dire, si le pays juge nécessaire d'inviter les forces onusiennes, ces forces seront sous commandement de l'État-major général de ce pays-là, du pays d'accueil. Si c'est un mouvement terroriste, les forces qui doivent venir au secours, les forces extérieures, doivent être sous les commandements et les ordres de l'état-major de ce pays-là. S'il s'agit d'une agression, les coalitions, nous sommes dans le contexte le plus récent entre l'Ukraine et la Russie, toute la coalition occidentale est sous le commandement du commandant suprême de l'Ukraine et sous le commandement de l'état-major de l'Ukraine. J'ai aimé la phrase finale du député pour dire qu'on ne peut pas sous-traiter des questions sécuritaires.
Mais Timothée Chaombo, ça fait vraiment beaucoup de temps qu'on entend parler de cette terminologie de ne pas sous-traiter la sécurité d'un pays. Mais est-ce que la RDC, en invitant les forces extérieures, est-ce qu'elle avait les moyens de ne pas le faire? Est-ce qu'elle pouvait se passer de cet appel aux autres pour survivre ou alors pour minimiser la situation?
Effectivement, la RDC avait tous les moyens. Laissez-moi le temps de terminer la petite phrase.
Allez-y.
J'avais en tête et je vous réponds immédiatement.
Allez-y.
Donc, la manière la plus adéquate de ne pas sous-traiter une armée nationale qui a la mission régalienne de défendre l'intégrité de son territoire, c'est de définir les mandats de toutes les forces extérieures. Or, dans le cas d'espèce, au départ, c'était des forces de neutralisation de mouvements négatifs, y compris le M23. Depuis le mois de février, la résolution des chefs d'État définissent les nouveaux mandats, comme vous l'avez très bien dit dans votre intitulé, pour faire observer les cessez-le-feu. Donc nous passons d'une mission de neutralisation à une mission de maintien de la paix, au besoin une mission d'interposition. Alors je reviens à votre question, est-ce que la RDC avait le moyen de s'en passer? Oui. Retournons 23 ans, 25 ans en arrière. Laurent Désiré Kabila était dirigeait la RDC et notre pays était agressé par les mêmes voisins. Qu'est-ce que le président Laurent Désiré Kabila avait fait? Il avait invité, dans le principe que je vous ai énoncé ci-dessus, il a invité des pays étrangers, des pays alliés. Ce pays était sous commandement de l'état-major des forces armées congolaises. Lorsque nous sommes allés à Africa Community, nous ne devrions pas, bon, je ne sais pas si les études qui ont été menées pour que nous puissions directement adhérer à ces institutions, les débats viendront d'autres fois, nous devrions solliciter des forces avec la définition des mandats clairs. Vous savez que l'Ouganda est l'allié privilégié du Rwanda, et même par là que l'M23 est ravitaillé par les couloirs des armes. C'est comme si aujourd'hui l'Ukraine acceptait sur son sol le militaire de la Biélorussie, là où se trouvent les armes nucléaires aussi de la Russie.
Alors Timothée, beaucoup d'analystes, d'intervenants qui viennent dans nos émissions ici, énoncent des principes apparemment logiques. Mais la question c'est aussi, est-ce que vous pensez que tous les experts de notre armée, les militaires hautement multifois gradés, des personnes expérimentées dont le métier est la guerre et la défense du territoire national, l'Assemblée nationale, tout le Parlement qui existe en RDC, les politiciens expérimentés qui constituent le gouvernement, plus le président de la République, n'ont eu aucun bon sens à tel point que on se retrouve aujourd'hui dans des coalitions où nos alliés, entre guillemets, c'est eux qui commandent les opérations. Notre armée est, entre guillemets, selon certaines rumeurs, chassée d'aller reprendre le contrôle du territoire. On a l'impression que nos dirigeants ne voient pas c'est que tout le monde voit de manière simple et claire. Est-ce que c'est possible qu'on en soit arrivé là?
Je ne peux pas dire, c'est grotesque d'ailleurs, de dire qu'il n'avait pas un bon sens, mais je vous ai rappelé une jurisprudence très récente, on peut dire deux décennies déjà passées, de Laurent Désiré Kabila qui a défini les contours de toutes les forces qui devaient accompagner notre pays. Je vous rappelle une fois de plus que lorsque, à un moment donné, l'actuel vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il a remplacé son collègue à l'époque, Azarias Urberoa, vice-président à la Défense, Jean-Pierre Bemba envoyait deux au Kivu, c'est les contingents qui ont mis en place le mécanisme pour déjouer Jules Moutebousi et Laurent Kounda Batoare. C'est-à-dire, au sein de cette armée, nous avons des hommes et des femmes capables. Nous avons des techniciens d'état-major, nous avons les officiers et les contingents de toutes les formations. Est-ce qu'on leur donne la liberté? Est-ce qu'ils s'expriment? Je reste optimiste pour le gouvernement Sama II, dont on a un nouveau vice-premier ministre de la Défense, mais aussi un ministre qui s'occupe de l'intégration de la coopération régionale, qui connaît le dossier, qui est un grand notable du Kivu et même de la région. Donc, nous ne pouvons pas dire que les analystes, les dirigeants congolais ont un bon sens, que nous, analystes, nous avions une science infuse. Non, il s'agit des principes tels que ça reste immuable. Il revient à l'armée nationale de contrôler son territoire. Or, aujourd'hui, il y a des territoire où l'armée nationale ne contrôle pas. Donc nous n'avons pas le contrôle total de la souveraineté du pays. La preuve en est qu'un principe souverain des élections pour chaque 5 ans, il y aura de nos compatriotes qui seraient pour la 3e ou 4e fois exclus du processus électoral pour la grave raison que l'État congolais ne contrôle pas les territoires. Bon, maintenant nous n'avons plus le vin tiré, il faut le boire. Les contingents sont là, les chefs d'État ont décidé. Maintenant, il revient aux nouveaux animateurs de tous les services de sécurité, de tout le Conseil national de sécurité, allant du vice-premier ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, coopération régionale et ministre des Affaires étrangères, sous la houlette du président de la République lui-même, de définir, Dona Madimba, le mandat. Que Radio Capi retienne cet élément. S'il n'y a pas de mandat pour ceux qui viennent en RDC, nous sommes en train de dessiner une situation d'une zone tampon où l'armée nationale n'a pas droit et la police n'a pas droit de se déployer. Ça devient une zone tampon, ça devient de la balkanisation que nous-mêmes, par imprudence, nous avons voulu.
Merci Timothée Chaombo Soucha. Le débat continue aussi. Nous venons d'ouvrir notre standard pour donner la parole directement à nos auditeurs. Timothée Chaombo Soucha, puisque vous avez la parole, nous allons écouter avec vous et puis vous allez réagir à ce commentaire de Jacques.
Je m'appelle Jacques Befonga depuis Sangui, province de la Tchouk. Les retraites humides des M23 ces derniers jours sont très stratégiques à mon humble avis. Le M23 ne doit pas quitter ou n'a pas la volonté de se retirer. Et tout semble montrer qu'il n'y a qu'une seule et unique chose qui peut le faire partir. C'est la contrainte et non des négociations. On doit éviter d'induire la population congolaise et surtout celle de l'Est en erreur avec le déploiement des forces armées régionales ou autres, car ces derniers n'ont pas une mission offensive. En même temps, les gens continuent à mourir. Le gouvernement congolais doit prendre en main ses responsabilités. La sécurité est un domaine de la souveraineté nationale. L'intervention militaire étrangère ne doit jamais résoudre le problème de la sécurité dans un pays.
Timothée Chaombo Soucha, que pourriez-vous dire à Jacques?
Effectivement, Jacques a une lecture de tout compatriote, une lecture lucide que les députés a défini, que le président de la société civile de Rutshuru a défini, c'est redonner à notre armée sa mission régalienne de défendre l'intégrité du territoire et d'assurer la sécurité de populations de leurs biens. Jacques a totalement raison. C'est pour cette raison que j'ai énuméré le principe lorsque nous, c'est sans toute souveraineté, hein, qu'un chef d'État peut décider, nous ne pouvons pas condamner le président Tshisekedi et même le gouvernement d'avoir invité ces gens. Il revient au président de la République de définir la politique de la guerre. Mais lorsqu'on invite, il faut donner un mandat. Qu'est-ce qu'on tient un mandat? Le mandat contient la mission. Quelles sont les missions spécifiques de ces forces qui viennent, les forces étrangères? Et quelle est la durée? Lorsqu'on ne définit pas les missions précises, la durée précise, avec un petit temps de rallonge, et lorsqu'on ne définit pas la cartographie de là où ces missions doivent être déployées, l'état-major du pays d'accueil, à l'occurrence le FRDC, perdent un petit peu de leur orgueil, de leur souveraineté, de leur contrôle. Un deuxième élément que je dois souligner très rapidement, c'est que il nous faut ouvrir l'œil le bon, et c'est ici qu'il faut attirer l'attention des dirigeants congolais, de dire clairement et ouvertement ce qui se passe. Pour quelles raisons acceptent-ils les forces ougandaises sur le sol congolais? Lorsqu'on sait pertinemment bien, et toutes les missions, même internationales, l'ont confirmé, l'Ouganda est de mèche avec le M23 et le Rwanda. L'Ouganda est un agresseur au même titre que le Rwanda. L'armée le M23 ne peut pas faire face à l'armée nationale. On ne peut pas tergiverser sur des questions aussi ostensibles comme celle-là. Et donc, oui, on peut inviter certains pays dont nous faisons membre de East Community, mais nous avons la souveraineté, le droit de refuser sur notre sol de l'armée qui est complice à l'armée rwandaise.
Merci Moté Chaombo Soucha. Bertin Mubonzi, député national et cadre de l'UNC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Vous allez venir avec nous pour le même exercice. Nous allons écouter cet auditeur de Kindu. Ensuite, vous allez réagir.
Moi, c'est Couleuvre Lemba, je vous appelle à partir de Kindu, dans la province du Maniema. À mon avis, quelques questions attirent mon attention. La RDC fait-elle réellement partie de l'EAC? Si oui, pourquoi les rebelles du M23 posent la condition de ne pas voir les FARDC dans les zones laissées sous le contrôle de l'EAC? Et la population va-t-elle retourner dans leur milieu naturel alors que les sociétés civiles commençaient déjà à alerter les présences de personnes inconnues qui occuperaient les maisons des déplacés? Et les routes de dessert agricoles vont-elles être réouvertes? Si oui, qui percevront les taxes? Et cette force ne sera pas aussi comme la MONUSCO, avec un mandat direct indéterminé, sans résultat palpable. Bref, je comprends que ça, c'est le vol et partage des richesses à toute sécurité.
Monsieur le député, vous allez donc essayer de réagir à toutes ces interrogations, mais aussi de manière particulière, quelque chose de pratique, maintenant que d'autres intervenants occupent les espaces laissés libres par le M23, est-ce que ce sont ces forces qui administrent ces partis, qui récoltent les taxes et consorts, ou l'État congolais arrive à avoir un contrôle, et par quel mécanisme?
Bon, d'abord, je voudrais rassurer l'intervenant de tout à l'heure pour dire que le M23 n'a aucune condition à poser. Aucune. À ce stade, le M23 est identifié comme un groupe terroriste
qui est manipulé par le pays voisin, le Rwanda, et il faut que l'on sache que nous sommes en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, il y a différentes interventions qui sont tout à fait justifiées. Moi, je viens de Goma. Lorsque vous allez rencontrer cette population qui souffre et qui vit au quotidien toute cette situation d'insécurité nous imposée par le Rwanda, leur langage, ce n'est pas tout le français que nous sommes en train de dire ici. Tout ce qu'ils demandent, c'est la paix. Nous voulons la paix. À un autre niveau décisionnel, il faut évidemment analyser les autres paramètres qui ne sont pas pris en compte par cette population-là et qui entrent en ligne de compte pour que nous puissions prendre certaines décisions et certaines orientations qui vont répondre à cette préoccupation de cette population-là qui ne demande que la paix. Et aujourd'hui, la situation, elle est telle que nous n'avons pas un autre objectif dans toutes les démarches qui sont initiées par toutes les institutions de la République autour du commandant suprême. La seule démarche que nous avons et le seul objectif qui est visé, c'est rétablir la paix et la sécurité à l'est de la République. Mais moi, je voudrais ici, et c'est très important, cher ami, évoquer la complexité de la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Nous sommes dans une situation où la décision a été prise de manière claire de réformer notre service, notre système de sécurité et de défense. Et il y a un grand travail qui est en train d'être fait par l'Assemblée nationale, à travers la Commission défense et sécurité, par le gouvernement, par la présidente de la République, et là je cite le Conseil national de sécurité. Nous sommes en train de faire un travail de réforme de notre armée, de notre police. Mais pendant que cela est en train d'être fait, nous avons aussi l'obligation de défendre notre République. Nous sommes membres de l'EAC, nous allons rester membres de l'EAC, mais nous devons nous assumer en tant que République démocratique du Congo, et à un moment, il faudrait que nous puissions nous rassurer d'être capables, en tant que RDC,
merci,
de contrôler la situation dans la région mais aussi dans notre pays. Voilà.
Merci Bertin Mbonzi. Nous allons arriver très rapidement au moment de conclusion de cette émission. Le temps de donner aussi la parole à Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, qui va réagir à ce commentaire qui nous vient de Tshikapa.
Oui, François Okundilang, depuis la ville de Tshikapa, au Kasaï. La neutralité de la défense des EAC ne profite pas au pays. Cela constitue un manque à gagner pour la République du Congo, étant donné que nos forces armées n'ont pas accès à cet espace géographique. Nos minéraux seront pillés.
Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, Bertin Mbonzi a plus ou moins donné son avis par rapport à l'appartenance de la RDC à l'EAC. Cet auditeur a aussi donné son avis. Votre réaction?
Oui, donc je crois que notre auditeur, il a totalement raison. Donc cette force-là, ça revient toujours à la question du mandat. Quel était le mandat de cette force? C'était de neutraliser, ce n'était pas de créer une zone tampon, non plus de venir cohabiter avec les groupes rebelles. Alors, du moment que le mandat n'est pas respecté, comment voulez-vous que nous, cette population, nous puissions avoir confiance à cette EAC? La réponse est non. Et dans cette EAC-là, c'est vraiment une organisation qui contient les pays adversaires. Je l'ai toujours dit que l'EAC n'a jamais condamné en aucune fois et le Rwanda et l'Ouganda qui nous ont agressés, mais on continue toujours à faire foi à ces gens. En tout cas, pour nous, nous pensons que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Mmh. Et comme venaient de le dire les autres, si aujourd'hui, par exemple, que même si, admettons que le métro va quitter, mais qu'il refuse et qu'on accepte qu'il n'y aura pas de la police, il n'y aura pas les FADC. Nous sommes des déplacés aujourd'hui, comment nous allons rentrer chez nous?
Jean-Claude Mbabazé, les forces de l'EAC sont, selon le commandement de cette structure, déjà au complet. Vous soupçonnez quelques membres d'être de mèche avec les agresseurs. Mais maintenant que la situation est comme ça, selon vous, la solution ou la manière de gérer ça devait être comment pour que l'État congolais ne soit pas perdant dans cette situation?
Écoutez, je pense qu'un État a le droit de chercher même des États amis, au lieu de se fier sur une organisation hypocrite qui nous agresse et qui veut venir donner des leçons ou des solutions pendant que l'organisation est dans sa deal, ce qu'on appelle un deal. Je pense que le gouvernement devait chercher un pays ami qui viendrait dans toute confiance et aux côtés de notre gouvernement pour chasser ces gens si les gouvernements pensent ne pas avoir la force pour le neutraliser. Mais sinon, nous, en tout cas, nous sommes très confiants qu'il y a des pays, quand même, amis, et qui peuvent venir nous aider. Et surtout, je voudrais encore une fois souligner que les gens qui pensent qu'ils viennent nous aider, même des pays qui ont échoué à sécuriser leur pays, on nous envoie les contingents. Les sites soudanais, ils ont échoué de sécuriser chez eux. Il y a l'insécurité totale chez eux. Ils ont même sous-traité leur sécurité aussi chez eux. Mais ce sont ces gens qu'on veut nous amener ici chez nous. Ah, c'est quand même se moquer de nous.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Merci, Jean-Claude Mbabazé. Timothée Chaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Vous donniez déjà quelques pistes de solutions tout à l'heure. Est-ce que, en plus des solutions, des pistes de solutions que vous avez données et que probablement vous pourriez ajouter en très peu de mots à la conclusion de cette émission, est-ce que quand Jean-Claude Mbabazé parle d'ouvrir l'œil vers quelqu'un d'autre qui serait cette fois-là quelqu'un de confiance, comment voyez-vous cette autre proposition?
Une proposition lucide, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de confiance, l'État, chaque État a des intérêts. Donc, nous avions, à l'époque, j'ai évoqué la jurisprudence Laurent-Désiré Kabila, il y avait des États qui étaient de très bonne foi, qui nous ont aidés à mettre un terme à la guerre et l'axe diplomatique a été amorcé. Alors, je ne contredis pas, je comprends le député clairement, nous suivons la situation du Kivu de très près. On comprend qu'à la fois le président de la République, les institutions sont à la fois pour les réformes et on comprend la complexité même de l'opérationnalisation de mouvement des guerres parce que le M23 prend généralement la population en otage. Et donc, on a du mal, parfois le FRDC a du mal à intervenir, très souvent même pour aller déloger ce mouvement qui prend la population en otage. Un petit élément en dernier ressort que j'aimerais proposer ici, en temps de guerre, on fait appel à tous les meilleurs de ses fils qui sont au monde. Le président Volodymyr Zelensky a même fait rappeler certains contingents de l'Ukraine qui étaient au sein de la MONUSCO à Kinshasa. Donc ici, nous avons des plus grandes académies au monde où les Congolais se trouvent au Japon, ici en Belgique, au Canada et ailleurs, qui peuvent venir et constituer dans ces réformes que les députés sont en train d'évoquer, que nous-mêmes nous sommes en train de suivre de près, et que nos compatriotes puissent apporter le leur pour qu'une fois de plus, pendant que les réformes se font, l'axe diplomatique est engagé, les questions régionales sont déployées, mais qu'au même moment, l'outil de souveraineté pour que demain, lorsque les mandats, si on définit bien les mandats, la durée, les missions, la mission de ces contingents, soit à la fin, que ce soit l'armée nationale qui reprenne avec assurance sa mission régalienne d'assurer la paix, la sécurité, mais du contrôle total de notre territoire et de ses frontières.
Merci Timothée Chaombo. Bertin Mubonzi, député national et cadre de l'UNC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale de la République démocratique du Congo. Vous avez entendu, entre autres, des propositions faites ici. Timothée Chaombo parle d'ouvrir l'œil pour bien définir le mandat de toutes ces forces qui sont chez nous. Et vous-même, vous avez évoqué la complexité de la situation sur terrain. Vous, en guise de conclusion, quel serait votre dernier mot?
Bon, d'abord, je voudrais remercier les co-débatteurs. Je crois qu'en termes d'atterrissage, on a presque atterri de la même manière. Nous devons évidemment avoir un œil, et ça, c'est le rôle du Parlement en tant que contrôleur. Nous devons nous rassurer de la mission, de la durée, mais aussi de la cartographie, ça j'ai retenu, et vous pouvez vous rassurer que ça c'est vraiment notre cheval de bataille pour que nous puissions être sûrs qu'il n'y ait pas de dérapage, je l'ai dit, mais aussi, et c'est important de le dire, je souhaiterais que nous soyons positifs et que nous puissions rester confiants, mais aussi, et c'est très important, très optimistes. Il y a un travail qui est en train d'être fait par les forces armées de la République. Et nous devons les soutenir, parce que c'est la seule armée que nous avons. Entre-temps, nous devons louer le courage, mais aussi la volonté du commandant suprême, qui est parvenu à mobiliser toute la République, évidemment à travers toutes les institutions, l'Assemblée nationale, le gouvernement. Les réunions aujourd'hui, nous les tenons à temps et à contre-temps, avec un seul objectif, de se rassurer que nous allons trouver la solution pour que nos populations de l'Est de la République puissent vivre désormais dans la paix et dans la sécurité.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Dieudonné, Nyangasa et Guimaté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.